ce soir, à partir de 21h,
ou vers la nuit. L'idée de ce nouveau rendez-vous est assez simple en fait.
Tous les soirs, on vous invite dans notre salon où vous attend notre bande de passionnés.
C'est eux qui vous commenteront l'actualité culturelle et artistique du jour.
Et puis, pour plonger dans la nuit et voyager plus loin, nous recevrons des hommes et des femmes sacrément intéressants. Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs,
voilà.
Des conchiliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h. France Inter,
la différence.
Et pour l'heure sur France Inter, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Salut Daniel, alors Monsieur Luc Chatel veut des cours de morale à l'école. Voilà, ça c'était la nouvelle du jour de notre gouvernement. Des cours de morale à l'école. Monsieur Luc Chatel, c'est très bien qu'il y ait des cours de morale en politique surtout. Oui, et surtout dans votre camp. Rappelons-nous, Monsieur Luc Chatel, votre entrée il y a 2 ans où vous faisiez filmer dans un supermarché pour montrer à quel point votre impact en tant que ministre sur le prix des fournitures scolaires avait... Les prix des fournitures scolaires avaient baissé. Voilà. Et vous faisiez filmer autour de femmes qui achetaient à grands coups de caddie toutes vos marchandises. Mais évidemment, tout ça a été bidonné. C'était des femmes que vous aviez récupérées à droite, à gauche, tout en carte UMP. Donc la morale à l'école, non, la priorité, c'est la morale en politique, surtout dans votre camp.
Alors les enfants, aujourd'hui, selon la volonté de votre ministre, nous allons faire un cours de morale. Alors prenez vos cahiers. Voilà. Non, Eric, arrêtez de copier sur votre voisine, Eric. Alors, on y va. Je ne recevrai pas d'argent liquide de mes amis. Voilà, les enfants. C'est la première leçon du jour. Deuxième leçon. Je ne serai pas l'ami des gens que je sers en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Je ne serai pas l'ami... Les gens que je sers, avant que je sois président de la République. C'est la deuxième leçon de morale du jour. Suite au prochain épisode, les enfants.
Salut à tous, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Nous, on a bossé pour toi, Daniel, durant l'été. On a réussi, on pourra te fournir en pistoule. Je téléphone parce que il y a quand même un truc un petit peu bizarre. Ça fait 25 ans que des politiques de droite et de gauche sont mises en place sous prétexte de privatiser et de diminuer les dépenses publiques pour réduire la dette et l'endettement de la France. Or, la dette explose. Moins il y a de services publics, moins les services publics sont financés, et plus la dette explose. Ce serait bien que les gens se rendent compte de ça, et que tu nous fasses une émission sur l'origine de la dette. Ça a été fait en Grèce et en Espagne, et c'est très très intéressant l'idée de faire un audit pour savoir d'où vient la dette, avec notamment cette notion de dette véreuse qu'ont appliqué les États-Unis quand ils ont envahi l'Irak et refusé de payer la dette irakienne. Ciao, viva, portez-vous bien, on va passer une belle année de lutte.
Bonjour à tous, ça y est, c'est la reprise du repère du Pas-de-Calais ce jeudi 1er septembre. Ça va être une année particulièrement riche en luttes sérieuses et diverses. Fabienne nous attend à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie. C'est juste à côté de Saint-Paul et c'est à partir de 18h30.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, bonjour les AMG. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver, surtout avec des sujets aussi passionnants que ceux qui ont été traités depuis cette rentrée. Alors j'ai juste en souvenir une excellente émission que Daniel avait consacrée à André Gorce et... En fait, le fond du problème, c'est le travail, puisque la classe ouvrière, pendant des décennies et des décennies, a pu être politisée par le biais de son lieu de travail et de son moyen de production. Retournons-nous vers les idées d'André Gorce, essayons réellement de proposer autre chose à ceux qui nous entourent. Je répète une phrase d'André Gorce que j'aime beaucoup, « Seul et digne de toi ce qui est bon pour tous ». Seul mérite d'être produit, ce qui ne privilégie et n'abaisse personne.
Voilà, ce qui est digne de toi, c'est ce qui est bon pour tous. Voilà une belle phrase pour commencer, une phrase d'André Gorce, citée par cette AMG. Pour une précision, quand cet auditeur, qui n'est autre qu'Éric, dès qu'il peut me fournir un pistou, c'est du vrai pistou. C'est pas autre chose, c'est pas un langage codé. Entre nos bonnes idées de faire du travail sur l'origine de la dette, vous pensez bien qu'on va pas y manquer ni y couper. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'ils font l'été, l'équipe de là-bas, si j'y suis, doivent s'éclater sur des plages, à profiter de l'existence. Pas tous. Par exemple, vous avez quelqu'un comme Pascal Pascariello. Où va-t-elle en vacances? Eh bien, elle va à La Roche-sur-Yon. Bon, et qu'est-ce qu'elle va faire à La Roche-sur-Yon? Ben, elle va en prison, elle va à l'ombre. Pascal Pascariello. Et pourquoi elle va à l'ombre? À cause de vous, à cause d'un auditeur qui s'appelle Denis et qui avait laissé un message sur le répondeur de la base où j'y suis, en disant, moi voilà, je suis surveillant de prison, si vous voulez, je suis un maton, d'accord, mais j'aimerais bien que vous veniez me voir à La Roche-sur-Yon, à notre maison d'arrêt, notre charmante petite maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, parce que là, on a un atelier d'écriture auquel moi, surveillant maton, je participe, et ça voudrait l'occasion, voilà, de voir un peu comment on survit et comment on s'accroche à une absence de branche, on peut dire, dans ces endroits où tout, où l'inhumanité se développe de plus en plus, on le sait, surpopulation, entassement de détenus dans une indifférence générale, alors que les prisons françaises sont condamnées de tous les côtés. Mais ce ne sera pas notre sujet du jour. Le sujet, ça va être comment on résiste, le côté malgré tout, entre un enseignant, les détenus, et Denis, le surveillant maton, écrivain, parce qu'on écrit. Et puis notre Pascal Pascariello, tout ça autour d'un journal qui s'appelle L'Écho Yo-Yo. Vous saurez pourquoi dans quelques instants. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour France Inter, je viens d'entendre Nicole du Morbihan. Je lui conseille, si elle veut des livres à écouter, de se positionner sur le site de l'Association des donneurs de voix. Il y en a 182 en France et tous les livres qui sont enregistrés par nos bénévoles sont entièrement gratuits. Je suis Daniel de Lyon.
Bonjour, suite au réquisitoire de là-bas, si je suis sur DSK, je me rends compte que la difficulté, c'est de déterminer qui est vraiment de gauche. Alors je vous livre une piste. Je travaille dans le nettoyage, je nettoie des locaux de MJC. C'est un nid gauchiste, hein, comme vous le savez. Et j'ai trouvé comment on peut savoir qui est de droite ou de gauche. C'est écrit au fond des WC, en fait. Alors, je m'explique. Le type de droite qui vient de tirer la chasse et qui voit qu'il a laissé un peu de caca au fond, hein, il prend pas la brosse, il se dit « je paye quelqu'un pour le faire ». S'il voulait faire un autre métier, là, qui a travaillé un peu plus à l'école, et puis qu'il se plaigne pas, il a déjà un boulot. Alors que le type de gauche, il se dit « bon, ce gars-là ou cette fille-là fait un boulot pas marrant, je vais pas en plus lui laisser ma trace de pneu ». Voilà. Eh bien, je peux vous dire que dans les MJC, tout le monde est de droite. Hein. Je suis très déçu. Enfin, voilà, c'est juste une théorie. Je pense qu'il y a matière à réflexion. C'était Sylvain Nancy.
Salut. Après une trêve estivale, le repère de Perpignan aura lieu le jeudi 1er septembre au Lisboa, place Rigaud, à partir de 19h. Au programme, info débat sur l'actualité, propositions pour les prochains repères et reprise du projet de théâtre tract sur le nucléaire. Rejoignez-nous, c'est jeudi au Lisboa, place Rigaud. A très bientôt, ciao.
Bonjour Daniel, bonjour là-bas si j'y suis, c'est Anne du collectif Nopalm. Je vous invite à nous rejoindre le 3 septembre à Port-la-Nouvelle pour une journée de mobilisation contre le projet d'implantation d'une usine d'huile de palme qui est portée par le géant malaisien Sindarbi, déjà très actif dans la déforestation en Indonésie et en Malaisie. Ils étendent actuellement leur plantation en Afrique et notamment au Liberia. Nous nous mobilisons contre ce projet à la fois au Liberia, mais aussi à Port-la-Nouvelle, qui se fait sur le dos des populations et de l'environnement. Et j'espère vraiment vous voir lors de cette journée de mobilisation. Bonne soirée à tous et à très bientôt.
Salut Daniel, j'ai bien écouté l'émission d'hier sur la montée du Front National chez les ouvriers particulièrement. Et beaucoup de politiques ou journalistes font semblant de se poser la question « pourquoi ?». Moi, je vais te donner une des raisons du pourquoi. Je bosse dans le transport de marchandises, en bref je suis routier, entre parenthèses international, Depuis 2005, les grandes entreprises de transport françaises ne cessent de licencier par divers moyens ou pressions leurs chauffeurs internationaux, car elles ont racheté des boîtes dans les pays de l'Est et louent les services de ces chauffeurs aux entreprises françaises. Un exemple, dans ma boîte, il y a 7 ans, nous étions 100 chauffeurs français. Aujourd'hui, nous sommes toujours 100, mais il n'y a plus que 20 Français qui essayent de se battre pour maintenir leur emploi. Et il n'y a pas que dans le transport. Dans la logistique, sur les quais de livraison ou chargement, je rencontre de plus en plus de Roumains. Alors on entend aux informations que tous les mois, le chômage augmente et qu'il y a 7 millions de pauvres en France. Voilà pourquoi en sourdine, tu entends la France aux Français, le travail pour les Français. Pour l'instant, je dis bien, c'est en sourdine. C'est Bruno de Calais.
Allez, allez, va chez la Bettencourt pour financer ta campagne. Elle donne des enveloppes en espèces. Si t'es à l'UMP, c'est bon. Vas-y.
Non, ceci n'est pas bien. C'est un délit. C'est mauvais pour la démocratie et mauvais pour la morale. C'était un message du gouvernement. Ensemble, luttons contre les financements occultes. C'est Frédéric à Amiens.
Cet après-midi, donc c'est l'atelier journal. C'est-à-dire qu'il y a un journal, on a mis en place un journal de la détention. Alors il s'appelle l'éco-yo-yo. Pourquoi l'éco-yo-yo? Bon, il y a un petit truc, c'est un double clin d'œil. Les yo-yo en prison, hein, c'est les petites ficelles qu'on balance avec un objet au bout pour faire passer un objet d'une cellule à la cellule voisine, hein, par la fenêtre, voilà. Et puis yo-yo, ben, la roche sur yo-yo, voilà.
J'ai mal à mes prisons quand je regarde à l'œilleton ces murs blancs de béton, vierges de rébellion, mais trop lisses.
Donc là, vous avez un titre super, La famille dans la peine, tout de suite avec le sens de la peine, le double sens de la peine. Par contre, là, ça va être beaucoup trop long, c'est trop un bloc.
Alors
là,
moi, je ressens ça plus comme une lettre que j'enverrais à un proche qu'un article.
Voilà, sauf que là, c'est dans un journal.
Je sais.
J'ai mal à mes prisons quand je regarde à l'œilleton ce soleil qui s'échappe des barreaux, écorché vif, sur un sol bien trop lisse. J'ai mal à mes prisons quand je regarde à l'œilleton cette forme qui dort allongée, sans un bruit, sans odeur, bien trop lisse. J'ai mal à ma prison quand je regarde ce matelas imbibé d'écarlate et ces gouttes rouges sur le sol qui s'éclatent et glissent.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello, l'éco-yo-yo.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce matin, en fait, je vais réaliser des entretiens individuels. C'est-à-dire que je vais voir toutes les personnes qui sont arrivées depuis une semaine. C'est déjà repérer les personnes illettrées, puis de présenter le service d'enseignement. Tout de suite cibler les gens pour qui ça serait bénéfique, quoi. Hein. Et puis bon, cet après-midi, donc c'est l'atelier journal. C'est-à-dire qu'il y a un journal, on a mis en place un journal de la détention. Alors il s'appelle l'éco-yo-yo. Le premier numéro, c'était en 2000 en fait.
Là, vous êtes combien pour écrire le journal?
En ce moment, on est un groupe de 7 détenus à peu près. Il y a aussi un surveillant qui écrit. C'est Denis, qui est un surveillant.
Il y a un surveillant.
C'est une expérience, c'est assez étonnant. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime l'écrit, qui a envie d'écrire. C'est quelqu'un qui lit beaucoup aussi.
Elle est là, la maison d'arrêt.
Voilà.
La maison d'arrêt, elle est en pleine ville.
Elle est en pleine ville, oui, en pleine ville. C'est les anciennes maisons d'arrêt, je crois qu'elles datent de 1902, je crois, ou 1900. Elle a dû être construite juste avant 1900, et puis elle a dû ouvrir en 1907. Bien.
En revanche, il y a certaines fenêtres où il y a des blocs en fer, c'est quoi?
C'est des plexiglas, en fait. Alors.
Et dans ces pièces, on voit rien.
Y a un peu de lumière, mais c'est pas top top quand même. Hein. Alors là où il n'y a pas de plexiglas, la série de 5 fenêtres, là, c'est la salle de classe, c'est ma salle de classe, là. C'est là que je travaille, c'est là où on va aller tout à l'heure.
Le dernier étage.
Ouais. Alors là, l'avantage quand même des prisons en ville, comme ça, l'intérêt, c'est pour les familles, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du transport en commun, il y a donc pour se rendre au parloir, c'est quand même intéressant. Mais bon.
C'est,
C'est fini, les prisons à vide, c'est fini. Nouvelle prison, nouvelle construction. Une collègue qui était là, qui enseignait déjà depuis assez longtemps, me dit, on a des salles de classe complètement exiguës, avec peu de pratiquement pas de lumière. On ne peut pas avoir plus de 6-7 personnes en même temps. Alors que moi, il m'arrive... la moyenne, on va dire, c'est 10-12 personnes. Sur certains sujets, on peut être jusqu'à 15-20 dans la salle de classe. C'est quand même très agréable, quoi.
On sort tous les deux ?
Ouais. Allez, on y va. Hop.
C'est pas tout qui diminue, hein. Y a des chiffres qui augmentent. Si vous prenez par exemple le nombre d'incarcérations, le nombre de détenus dans les prisons françaises, on a un chiffre de 64 584 qui est un record. On n'est pas mauvais pour tout dans notre charmant pays. Une augmentation de 4,8% sur seulement un an. Alors qu'on pourrait croire que les alternatives à l'incarcération avec le bracelet électronique, etc., sont censées se multiplier et faire chuter les placements en détention. Non, pas du tout. On entasse et on empile. Alors, bien sûr, on observe par la suite une certaine promiscuité et une certaine violence, mais on a la solution. On regarde ça bien en face et on va construire. Il y a un vaste programme immobilier qui est prévu et qui va donner lieu à la création d'ici à 2018. 13 500 places de prison supplémentaires seront créées. Voilà de belles nouvelles et voilà de bien beaux programmes. À quoi mesure-t-on l'état d'un État ? À quoi peut-on mesurer l'état de déliquescence ou non d'un pouvoir, de son cynisme, sa médiocrité dans les eaux glacées des calculs électoraux? Eh bien, l'un des symptômes, c'est évidemment la prison. C'est à l'état des prisons qu'on mesure l'état d'un État. Mais c'est pas notre sujet du jour, même s'il faut rappeler que l'État a été condamné, vient d'ailleurs tout fraîchement d'être condamné à 3 reprises par la justice administrative en raison des conditions d'existence qui ont cours dans ces prisons. Des détenus dans les prisons d'arrêt de Nanterre, de Bois-d'Arcy, de Rouen et de Marseille ont obtenu réparation pour atteinte à leur dignité. Il y a des gens qui se défendent même du fond de ces endroits-là. C'est pas nouveau tout ça, hein. Le Sénat, la Cour européenne des droits de l'homme, le contrôleur général des lieux de privatisation de liberté, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Comité européen pour la prévention de la torture, etc., ont lancé, ne cessent de lancer, des alertes officielles. Même en 2000, la commission d'enquête parlementaire avait observé, je cite, les conditions de détention dans les maisons d'arrêt sont souvent indignes d'un pays qui se targue de donner des leçons à l'extérieur dans le domaine des droits de l'homme. Vous connaissez ce sujet par cœur. C'est presque devenu un marronnier médiatique. Une chose qu'on a peut-être oubliée, c'est comment, entre le 1er juin et le 1er octobre 1981, sous l'impulsion du garde des Sceaux, un certain Robert Badinter, la population carcérale avait baissé d'environ 40%. Il y avait à l'époque 29 000 détenus. Le pays, la question, la voilà, le pays avait-il sombré dans le chaos à cette époque? Vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, renseignez-vous. La réponse est non. je prends ces notes dans une déclaration de Mathieu Bonduel, secrétaire général du syndicat de la magistrature. Mais nous ne parlerons pas de ça dans notre sujet, même si en fait, ce que vous allez entendre évidemment est en lien. Mais ce que nous allons entendre, c'est, vous avez compris, c'est cet atelier d'écriture avec cet enseignant avec qui... que Pascal Pascariello accompagne. On va rentrer dans cette maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, en Vendée, et on va rencontrer des détenus, et on va rencontrer notre auditeur, Denis, qui nous avait mis la puce à l'oreille. L'écho yo-yo, reportage de Pascal Pascariello, c'est jusqu'à 16h, dans la basse, j'y suis.
Moi j'ai reçu ta lettre du 25-02. Dehors toujours la même merde, stupulaire à goarodé. Les gars de confiance me disent connaître la poucave, un ancien pote avec qui on aurait rappé. Bref, on verra après. Mounir m'a appris que tu partageais la cellule avec son frère. Pas sous la paix, trahi par la raison quand elle manquait à l'appel. Trompé par les juges qui de nos vies n'ont jamais rien compris. Trompé dans la prison et ses murs pour les années qu'elle vous a pris. Berné par la folie et sa présence, tout est écrit de la naissance et son cri. Colle la seule et son silence. Frérot, mes mots suffiront pas à scier tes barreaux, mais à renforcer ta patience pour en faire de l'acier. Touré à de bonnes nouvelles, il se pourrait que Malakite n'enterre à la fin du mois. Louange à celui qui fait avancer. Faut penser à éviter le mitard, qu'on voit nos têtes à la prochaine visite. Comment on peut pas qu'on dise à plus tard.
18 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. J'suis pas snoop, j'rappe sans foot. C'est ce qu'ils m'ont dit, faut que je travaille pour que la pute me donne la condi. Hemmi, la zermi, comme passer les fêtes aux armées. J'gamberge, j'ai ça mon zoo, là, impossible de dormir. Sinon dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes, taf. Et sur les murs, j'ai des photos de tasse. Et le matin me guette, porte clé à perpétuité. Si si, leurs mamans sont des prostituées. Maintenant je sais, je peux compter sur qui. Merci de ton aide, je vais survivre, c'est pas le bled ou la Turquie. La tôle c'est la pression, j'aurai l'instant de révolution. Donc nique sa mère la réinsertion. Ils savent pas si j'aurais dû naître, qu'ils aillent se faire baiser. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. Encore des semaines en solo, baisse la FM seule. Tous comme des hyènes en chienne derrière des chaînes. Si j'aime qu'on en arrive là, pour que j'oublie, viens samedi qu'on reparle de cette fille là. Dis bien aux dirigeants et à leur môme qu'on a les mains chromes, mes yeux verts, dollar gun pour pas que les flics show me clic. Technique de barre parcelée, j'harcèle la juge, bientôt j'arrache les barbelés. On a du boulot, j'suis en manque de poulet de goulot. Et tonton, je te ferai goûter les pâtes au thon, on veut le roro. Seulement si Dieu veut, on l'aura. Pour l'instant, je déchire mes draps pour faire des yo-yo. Salut les man, l'ami, fais à ton âme la vie. Continue, envoie de la fraîche que je continue.
Terminé, on rentre.
Excusez-moi, vous savez si Denis, il est surveillant, est sorti ou pas?
Il arrive.
D'accord. La maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon qui vient de se fermer. On attend Denis.
Question.
Bien, Yves. Salut.
Bonjour.
Pascal.
Denis.
Bon, on va aller là parce que non, tu peux rentrer là-dedans qu'à 13h30. Ok, d'accord.
Dans la maison d'arrêt.
Voilà, la maison d'arrêt, tu peux. Excuse.
Je vais rester dans la cour.
Voilà, dans la cour, dans un local super sécurisé. C'est un local où nous, on se repose la nuit.
Il est quelle heure, là? Il est 12h30, c'est l'heure de la relève?
Ouais. Alors donc là, c'est des chambres hein, qui ont été aménagées par la pénitentiaire. Alors, une table, un lit, là, il est tout neuf, mais bon.
Ah, ça va être une chaise.
Il n'y a que des portes, hein. Ça commence déjà, l'univers des portes. Vous êtes, Denis, comment on appelle ça? Un surveillant, un maton? Ouais.
Bon, surveillance, c'est l'appellation qui maintenant est devenue commune. Bon, avant, on avait une image qui correspondait à l'appellation maton. Quoi. Ça correspond, on peut faire un parallèle avec le mot bâton. Et il y avait énormément de violence, mais d'un côté et de l'autre. Bon, avec nous, on avait la loi derrière nous, donc ça nous facilitait la violence. Quoi. Mais bon, nous, à une époque, on avait le soutien de tout le monde. Ce que je dis, c'est pas politiquement parlant, mais correct non plus. Maintenant, les choses ont changé, la société est devenue plus violente. Puis nous, ben, on fait avec, mais on s'est bien assagi.
Et vous, ça fait combien d'années que vous êtes surveillant ?
15-20.
Vous avez quel âge ?
44 à peu près, quoi. À peu
20 près. Ans de prison, quoi.
Oui, mais en dehors, quand même. En dehors.
La limite, elle est fine, parfois, quand on est surveillant en prison.
Quelle limite ?
Du dehors et de l'extérieur ?
On doit tout le temps être, comment dire, soi-même en prison. C'est pas parce qu'on prend un uniforme qu'on devient autre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui... le fait de porter, ça les transforme. C'est pas bon.
C'est-à-dire ?
Ben, ils se croient tout permis, quoi. Ce sont des espèces de dieux qui décident par la fermeture de porte de l'avenir des autres. En toute impunité. Et ça existe encore un petit peu, bon.
Alors, Maton, c'est proche de Bâton. Moi, dans ma tête, Maton, c'était celui qui matait, justement, à travers le petit œilleton qu'il y a sur les portes.
Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, le regard, le regard qui est posé sur la personne qui est dedans, ouais, il a toujours été. Ça peut être un regard de protection, pour surveiller s'il n'y a pas eu une pendaison ou tout ça. Ça peut être aussi un regard inquisiteur qui est là constamment pour fliquer, quoi. Alors qu'on doit être juste là pour prévenir, pour être des garants de la bonne exécution de la peine. Point. Un point, c'est tout. Et non pas chercher à être des redresseurs de tort. C'est pas notre rôle.
Denis aime pour beaucoup qu'on l'appelle Maton, vous avez compris. Il préfère surveillant. Enfin, voilà les contradictions de ceux qui sont dans ce rôle. Difficile. On a déjà rencontré ces surveillants à plusieurs reprises dans la base où j'y suis. Souvent, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience qu'on pourrait le penser. Et puis, il y a effectivement ceux qui, une fois l'uniforme revêtu, abusent de leur petit bout de pouvoir, mais ils n'ont pas le monopole de ce genre de conduite. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui s'en foutent. Mais enfin, ils portent quand même quelque chose. Ils sont entre les deux, quoi. Ils sont entre le détenu et entre l'extérieur, on en avait rencontré, si vous vous souvenez, il y a bien longtemps, je crois que c'était à Melun, qui nous racontait leur blues, comment ils n'étaient pas toujours très chauds pour raconter leur boulot à leurs enfants, pas toujours très chauds non plus pour voilà, faire leurs courses dans le supermarché du coin, parce qu'on risque d'être vu par d'anciens détenus, par les familles de détenus. Et voilà, c'est un métier difficile, particulier, délicat. On l'a rencontré un peu partout dans le monde, si vous vous souvenez. Au Brésil, en Bolivie, un peu les mêmes profils de personnages. Mais ce qui nous intéresse avec Denis, c'est ce fameux message qu'il avait adressé au sujet de ce journal, l'Écho Yo-Yo.
On a une base de SMIC. Et puis, on nous octroie une prime de 450 euros. Parce que, bon, on peut être agressé par un détenu, donc on a une prime pour ça, on peut dire.
La fin du mois, du coup, ça avoisine combien à peu près ?
Entre 1800 et 2000, ça dépend les heures sup, tout ça, quoi. Bon, c'est raisonnable, hein, c'est raisonnable. Nous, on a la chance d'une petite tôle où il y a suffisamment de personnel, et on n'a pas beaucoup de détenus, quand même, à s'occuper. Donc, effectivement... on n'est pas à 100% à courir dans les coursives. Mais c'est un plus, parce qu'au moins, les problèmes, si on veut, ils sont bien gérés. Tandis que d'autres tôles, style la santé, Fleury, Fresnes, ce qu'on appelle la partie sociale du travail des surveillants, ben, ils passent après, quoi.
Parce que là, vous êtes combien, vous, par exemple, à La Roche-sur-Yon ?
On est sur une moyenne d'un surveillant pour 30, quoi.
Contrairement à la moyenne française qui est d'un surveillant pour 80, à peu près.
Oui, je pense que même dans les prisons, ça va être à ce niveau-là.
Il y a combien de détenus à La Roche-sur-Yon, dans la maison d'arrêt ?
Là, ce matin, on est monté à 102, avec des matelas par terre, et des gens qui n'ont pas de lit pour dormir, donc on met un matelas par terre et puis ils dorment dessus. Donc, on est la prison la plus surpeuplée de France. Bon, c'est une politique d'incarcération actuelle. Bon, c'est pas un plaisir de mettre quelqu'un par terre, dormir par terre. Quand vous avez une cellule de base, 9 mètres carrés, mettre 4 personnes dedans, c'est pas forcément ce qui est le mieux, mais on n'a pas le choix, on les met quand même.
Vous écrivez pour le journal de la maison d'arrêt.
J'écris des textes en me mettant à la place du détenu, c'est clair. C'est qu'on a vu des situations qui nous ont causé, quoi, qui ont fait qu'il y a eu le déclic. C'est un exutoire aussi, hein, faut pas se leurrer. Quelquefois que ça fait trop mal, on balance des mots.
Vous écrivez depuis combien de temps? Depuis que vous êtes arrivé à La Roche-sur-Yon il y a un an?
Non, quelques années. Tu sais, quand on apprend qu'on n'est pas. Qu'on descend du piédestal du regard d'une femme, ben, moi, on se pose des questions. Quoi.
Vous êtes séparé avec.
Ouais, bah oui. À pénitentiaire, on a quand même un taux de divorce qui est quand même assez élevé. Quand t'es pas mûr, t'arrives pas forcément à être top au niveau du boulot, te réfugier dans les bras de quelqu'un, et puis t'oublies que c'est quelqu'un qui existe aussi. Donc l'autre, à la fin, il jette. Après ça, bon, on fait plus attention aux autres. Bon, moi, j'ai tout fait pour que les gamins n'aient pas trop d'impact.
Ils ont quel âge ?
11, 15 et 20, la grande, tu sais.
Et puis bon, après ça, oui, bon, j'ai retrouvé l'attrait des mots, et puis du coup, je bataille avec, c'est plus facile. Ils font moins mal, des fois. Ils font moins mal. Ils rendent service, c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que vous pouvez me lire un des textes que vous avez écrits, alors? Il y a deux classeurs énormes de poèmes.
Des conneries. J'ai mal à mes prisons quand je regarde à l'œil ton ces murs blancs de béton, vierges de rébellion, bien trop lisses. J'ai mal à mes prisons quand je regarde à l'œil ton ce soleil qui s'échappe des barreaux, écorché vif, sur un sol bien trop lisse. J'ai mal à mes prisons quand je regarde à l'œil ton cette forme qui dort, allongée, sans un bruit, sans odeur, bien trop lisse. J'ai mal à ma prison quand je regarde ce matelas imbibé d'écarlate et ces gouttes rouges sur le sol qui s'éclatent et glissent.
Vous n'avez jamais vu de personnes qui s'étaient suicidées en cellule?
Ouais, c'est des choses qui marquent la vie, ça. Mais après, on se bat pour que ça se repasse pas, quoi. Ça, c'est pas facile.
Vous en avez déjà vu?
Il y avait pas de sang, hein, donc le mec s'était pendu, point. Donc, bon. Sang. Mais bon, voilà, quoi. Passer à l'acte.
Ça sert à ça aussi d'écrire dans ces cas-là?
Effectivement, mais nous on est payé pour, donc je veux dire qu'on morfle après tout. Si on veut pas morfler, bon, on dégage. Quoi. On devient entrepreneur, on se met dans le commerce. Maintenant, si on est surveillant, ben, on l'a bien voulu puis on l'accepte. Peut-être que je donne l'impression d'être trop à l'écoute du voyou. Je pense que le voyou, on est venu voyou parce qu'on n'a peut-être pas assez écouté. Je l'écoute peut-être de trop. Le point, c'est un choix. Les gens, ils ont fait un truc, ils morflent toutes les nuits, ils l'ont dans la tête. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui a fait une connerie, la vie ne revit pas la nuit. Eh bien, nous, la nuit, on est chez nous. Ou alors, une nuit sur cinq, on est en tôle. Enfin bon, on peut sortir, faire une clope décompressée, comme on veut. Il y a un gars qui était incarcéré, là, un jeune, il a tué son père. Et ce mec-là, toutes les nuits, pratiquement... Il est réveillé, quoi. Toute nuit, il est réveillé, il dort pas. Donc, l'acte, ils le savent. Ils le savent et l'acte, ils l'ont dans la tête tout le temps.
Je suis un poète. Je rêve et je flash sur les lueurs du liquide vaisselle, sur la couleur des bonbons à la menthe, le long de l'Atlantique, sur le ciel plombé à travers les vitres des bars parisiens. Je suis un poète. Je tâte avec délicatesse les flaques de merde, plus douces que le miel. Je hume l'urine musquée des chats dans les taudis des quartiers chics, gothiques. Je suis un poète et je ne vous embrasse pas. Mais je vous invite au bal des obscurs, des petits voleurs, des veines bleues, des basanés, à Fleury-Mérogis, à la santé et aux baumettes. Ouvrez les prisons, elles nous tuent.
Quelle heure il est là, Denis?
13h15, non? Bon, on va à l'atelier voir la conception de Yo-Yo, le journal.
Le journal, voilà. Allez. Ah ben voilà, Jean, vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux, Jean et Denis?
Bah, depuis que Denis est arrivé.
À peu près un an, ouais.
Vous êtes le seul surveillant à travailler sur le journal?
Officiellement, oui. C'est un choix. Mais moi, j'aime bien travailler avec les mots, donc le journal, c'est histoire de mots, donc voilà quoi.
Comment c'est accepté par les autres surveillants?
C'est un fait. Point.
Sans commentaire.
Si, oui, les commentaires sont faits.
Bon, allez, Denis et Jean.
Vous voyez, alors par contre, oui, il y a un petit souci de Pascal, il va falloir que tu enlèves ton appareil autour du cou.
Parce d'accord.
Que, et après, il faut passer sous le portique, il faut pas que ça sonne.
Très bien, je vais faire ça. Alors, j'enlève le matériel. J'enlève la ceinture ?
Ouais.
Ok.
Donc on vient de franchir un sas d'entrée, de la porte d'entrée, ouais. Avec accès sur la détention à la prochaine porte qui va s'ouvrir. Là, il y a une sonnerie qui s'est déclenchée et le surveillant est venu ouvrir la porte.
D'accord. Et ça va donner sur la maison d'arrêt, à l'intérieur.
Sur la détention par elle-même, ouais. Alors là, on est en train de marcher dans le couloir du rez-de-chaussée avec six portes à droite, 3 et 3. En face de nous, on a les cours de promenade. Donc là, on va monter deux volets d'escalier pour arriver au deuxième étage. Et juste en face, il y a la salle de cours dans laquelle il y aura l'atelier yo-yo du journal.
D'accord, et il y a des filets, c'est ça, de sécurité?
Anti-chute, voilà, tout bêtement.
Éviter de se jeter par-dessus les
étages. Bah, ils peuvent se jeter, mais bon, ils étaient sur le filet, et puis il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas de dégâts. C'est déjà arrivé, malheureusement. Voilà.
Et combien d'étages? Deux étages?
Deux étages, ouais. Repeintes par un détenu, hein. C'est pas une société privée qui vient faire ça. Les détenus s'occupent à des travaux généraux. Il y en a qui font le ménage, puis il y en a qui font un petit peu tout l'entretien.
Et là, on monte au deuxième.
Alors, pour bien se figurer la maison d'arrêt, on peut dire que c'est un voilier percé.
Un voilier percé.
Un voilier percé, c'est-à-dire que vous avez toute une par étage, comme dans les galères. Et de chaque côté, vous avez les cellules avec les rameurs à l'intérieur. Et puis autour, ben, les coursives, quoi. Les coursives.
Il y a un puits quand même de lumière, on peut avancer.
Ah ouais, ouais.
Un petit puits de lumière, on va dire. Hein. Pas très grand, mais un petit puits de...
Ce qui permet de...
D'une verrière qui est au plafond. Et là, on rentre dans la...
Voilà, là, on rentre donc, là, dans la salle de classe. Hein, c'est la partie, le lieu pour l'enseignement, voilà.
Avec des fenêtres.
Donc là, c'est une salle qui nous est réservée.
Avec l'alphabet, table de multiplication et tous les ordinateurs.
Ouais, tout un pack informatique, ouais, qui a été matériel de récupération ou d'achat, très peu. Mais ça fonctionnait. C'est là-dessus qui tape yo-yo, le journal.
Juste une question, là ils vont, comment ça se passe? Les personnes qui doivent venir au cours vont être sorties des cellules, c'est ça?
Oui, ils vont.
Ouais. Ouais, ils vont être sortis des cellules par les surveillants, puis ils vont être envoyés des différents étages. Ici, ça va s'entendre, hein, très vite. Hein. Ce qu'on va faire, on va laisser ouvert, comme ça on aura un bruit de fond, et puis on va entendre les portes qui vont s'ouvrir. Oh. Ça résonne énormément. Oui.
Dis-moi, journal, baisse un peu la musique, s'il te plaît. Journal. Et il y a aussi Margarita.
Bonjour.
Tout de suite. Jusqu'à 5 heures.
Jean-Denis, ça faisait longtemps.
C'est toi, toi.
Là, je viens de me frotter la gueule.
Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Je trouvais que t'avais des marques.
Ouais, non, la bicep.
Tu avais été frappé par un camarade.
Ouais, t'as vu, je me fais maltraiter.
Ça se peut, hein.
Non. Gentil comme je suis.
Et ton frère, il est toujours là-bas?
Ouais, bah, il va demander à être transféré.
Ah bon?
Il a pris 4 ans, lui. Puis il y a encore une histoire qui arrive, là, de séquestration.
Ah, ouais.
Vas-y. Moi aussi, j'ai demandé mon transfert là-bas, pour faire rapprochement familial, vu que ma mère
allait.
À Mont-de-Marsan.
Oui, mais t'es condamné?
Ouais,
bah ouais, donc tu peux partir.
Bonjour.
Ouais, j'ai pris des ans et tout.
À tout à l'heure.
Zonzon, on t'a vu t'es jury des assises, bien trop vite résilie. Ton contrat pour la vie, j't'imagine aujourd'hui engraissé au ravioli. J'en pâlis, pas ni blême, tu disais en garde à vue, pas de blême. Tout ça c'est du déjà vu, je ne vois que ma haine aujourd'hui, ils t'ont eu. Zonzon, on t'a vu t'es. Clic-clac, c'est le bruit de la clé. Fin de soirée ou début de matinée, tu viens d'arriver. La nouvelle vie va commencer. Ta liberté s'est envolée. Tu ne l'aurais pas imaginé, ta vie est programmée, minutée. Tes faits et gestes sont contrôlés, surveillés. Ma clé non-stop, ma tombe, ma stock te bloque. J'évoque les coups de bâton pesant du schnock. Prison égale bâtisse à haute tension. C'est le monde des coups de pression. Attention, des tensions fermes ou provisoires. Du couloir au parloir, il n'y a pas d'échappatoire.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la rage.
Soulevé pour un délit mineur, t'as frappé un contrôleur, tiré sur un dealer. Dealer, justicier, quelle est l'ampleur quand ils te rangent, t'aime dans leur classeur. Pour eux, t'es l'élément perturbateur. Les faits restent accusateurs. On donne raison au meilleur des orateurs, à la version du truffion, celle du procureur. Stupeur quand je vois ce mélange de malfaiteurs, du pointeur au kidnappeur ou l'assassin qui ne sait même pas pourquoi il refroidit. La liste de mauvais plans, elle, s'agrandit. Mais le plus grand risque, c'est qu'à ta sortie, t'en gardes souvenir d'une vie paisible et sans souci. Car si tu rechutes, ils gagneront leur pari.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
Enfin, j'ai ramené le
mât.
Oui. Ah non, mais je peux la sortir là, elle est là.
D'accord.
On a donc Pascal qui est journaliste à France Inter et qui fait un reportage sur ce journal, l'Écho Yo-Yo, voilà. Bah, nous, on va reprendre un peu notre travail habituel. Bon, pour la facilité, vous savez qu'à partir du moment où il y a un reportage qui se déroule en maison d'arrêt et qui va être diffusé à l'extérieur, il y a une règle, c'est l'anonymat. Aujourd'hui, vous ne serez pas étonné, je vous appellerai par votre prénom, simplement pour respecter l'anonymat dans le cadre de ce reportage.
Luc, 37 ans, première condamnation.
Bonjour. Alors, je m'appelle Loïc, j'ai 28 ans, voilà, c'est la première fois que je viens là.
Bonjour, c'est Thierry, j'ai 38 ans, et puis bah, c'est pas la première fois que je viens, c'est plusieurs fois quoi en fait. Quoi.
Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans, c'est la première fois que je viens en prison majeure, mais avant j'étais en mineur.
Moi c'est Xavier, j'ai 35 ans, j'ai un CV judiciaire assez chargé, bon, malheureusement c'est comme ça.
Thierry, c'est la première fois que je viens.
Votre âge?
Oh bah non, je suis plus vieux, là, 50 ans.
Donc, la prison, l'antichambre de la récidive. L'actualité judiciaire et
humanitaire. Ça, c'est l'article que vous avez écrit.
Oui. Donc, la prison, l'antichambre de la récidive. L'actualité judiciaire met une fois de plus en lumière un drame survenu à la suite de la mise en liberté d'un multirécidiviste qui n'aurait pas fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire auquel il était assujetti. Alors même que le gouvernement a fait voter plusieurs lois pour lutter contre la récidive depuis l'année 2002 qui se sont révélées quasiment inefficaces. Ce malheureux drame devrait plutôt interpeller la société sur l'efficacité de la répression, notamment sur les mesures d'accompagnement d'une peine de prison. Les prisons sont surpeuplées et les conditions de vie sont d'un autre âge.
Peut-être que faut espérer, après tout, comme Brigitte Fontaine dans sa chanson, qu'un jour, dans une génération ou deux, nos descendants, nos arrière-petits-enfants, écoutant ce que vous écoutez, se diront « quelle barbarie !» Et surtout, quelle inefficacité ! Quelle inefficacité ! Là, ce qu'on entend, c'est des gens qui sont en réinsertion, résistance, malgré tout, essayer quand même de survivre, mais de réinsertion, point. De récidive, oui, fabrique de récidive, fabrique, usine à fabriquer des voyous. On le sait, tout le monde le sait, les gardiens comme les juges d'application des peines, tout le monde le sait. Mais il se trouve qu'on continue d'entretenir l'idée qu'il faut être ferme et que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, si on ne l'est pas, on le disait tout à l'heure avec les dispositions qui avaient été prises en 1981, eh bien, il n'y a pas de récidive si on réduit le nombre de détenus dans les prisons françaises. C'est quand même extraordinaire. Mais, voilà, il y a une certaine médiocrité cynique qui fait qu'on continue sur cette... voilà. C'est pas tout à fait notre sujet, on a déjà évoqué ce sujet. C'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui. C'est ce journal qui s'appelle L'Écho Yo-Yo. Vous avez compris pourquoi Yo-Yo ? À cause de ces fameux yo-yo, ces crochets avec, au bout d'un fil que les détenus balancent comme ça pour se passer des objets, des choses d'une fenêtre à l'autre. C'est bien connu. Et puis donc, voilà, ce journal qui se fabrique sous nos yeux à partir des expériences, des rêves et des réflexions de ceux qui sont derrière les murs.
S'il y a un truc dans ma vie qui s'est pas bien passé, je ferai en sorte de plus m'en rappeler, je ferai en sorte d'essayer de l'oublier.
Ouais, mais ça revient. C'est d'autant plus présent.
Ouais. Mais ça revient.
C'est d'autant plus présent.
Ouais. Parce que t'as pas fait la psychanalyse de ça.
Tu vas pas balancer. C'est Denis qui parle à Loïc.
Il y a encore trop dans toi.
Ouais, mais bon, j'ai oublié. Je...
Ah non, n'oublie pas. Si tu chies pas, tu l'évacues pas. Il est encore là.
Tu voudrais que je fasse quoi maintenant à mon âge ?
Ouais, non, mais je veux rien voyer ces gars.
À 30 ans, je vais ressasser des passages que j'avais quand j'avais 6-7 ans.
Moi, 44, et puis je me mets en cause tous les jours.
Je peux pas, moi.
Il faut...
Ne regardez pas comme ça.
Je suis pas là pour meurtre, ça va.
Pascal.
Denis, il fait de... Je fais non seulement surveillant, mais en plus psy.
Fais ton journalisme, toi.
Surveillant et assistante sociale aussi.
Un surveillant, c'est pas pareil. Parce qu'un surveillant, même s'il n'est pas enfermé, comme on dit, derrière la porte, il est présent. C'est-à-dire qu'il peut quand même, il peut, même si humainement, il peut voir et comprendre les peines des gens. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, d'accord.
Que les gens qui sont administratifs, tout ça et tout, qui, ben, eux ils voient rien.
Voilà. Loïc, vous avez une peine de combien ?
9 mois, plus un mois, ça fait 10 mois.
Je veux savoir pourquoi ?
Bah, stupéfiant, comme beaucoup de gens. Ouais, j'en ai vendu. Du shit.
Vous avez un boulot à côté ou ?
Ouais, j'ai un travail, ouais. Ouais, je fais plein de trucs. Là, je faisais les marchés, là. Et avant, je travaillais en usine, je travaillais en maçonnerie, je travaillais dans plein de travail, quoi. Après, j'ai fait de l'intérim.
Vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge, alors ?
Ouais, j'ai pas été loin, 6e, je crois, un truc comme ça. J'ai commencé un CAP de maçonnerie. Après, je l'ai pas fini. Après, j'ai fait un CAP de cuisine. Et après, après, c'est enchaîné, quoi. C'est petit boulot, vente de shit, petit boulot, vente de shit. Après, vente de shit, vente de shit, vente de shit, vente de shit. Après, petit boulot. Voilà, quoi. Ça s'est enchaîné, quoi. Et après, le plus dur, c'est de s'en sortir, hein, quand même. Hein. Le plus dur, c'est de sortir de ce système-là.
Votre salaire, il allait de combien à combien, en général ? Avec votre boulot, hein, normal.
Ben, ça dépendait. Je faisais le marché, donc ça dépendait. Des fois, en une journée, on avait juste payé la place, on n'avait rien fait. Des fois, on n'avait rien, quoi. Des fois, on avait juste de quoi payer la place. Donc, quand c'est comme ça, ben, tu retournes, tu essaies de trouver d'autres choses. Et sinon, avec le chichon, ben, là, le salaire, elle est, voilà, quoi. C'est pas pareil. Pas comparé.
Ça rajoute combien d'euros par mois ?
Par mois ? Enfin ouais, 2000 euros à peu près. Je pouvais pas me dire que j'allais pas faire mon mois avec 300 euros ou 200 euros, quoi. Je pouvais pas. Moi, il y a des familles, ils ont je sais pas combien d'enfants, ils travaillent pas, mais ils ont, après avoir tout payé, ça leur fait 200 ou 300 euros pour vivre au mois, et puis faut qu'ils assument. Voilà. Ah, c'est dur, ils réussissent. Et c'est le plus dur, quand, comme je dis, c'est le plus dur. Parce que le shit, c'est quoi? C'est bah, je vais pas dire c'est éphémère, mais tu gagnes de l'argent, et à la fin, cet argent-là, il te sert à quoi? Il te sert à, dans la vie de tous les jours, quoi. C'est un truc que... On croit que ça t'apporte du bonheur d'avoir un peu plus d'argent, mais finalement, une fois que t'es là, tu t'aperçois que tu peux être pauvre et être heureux, quoi. Surtout ça.
Vous avez des enfants?
Ouais, trois.
Votre femme, elle fait quoi?
Ma femme, elle travaille aussi. Elle travaille, elle a arrêté de travailler depuis que je suis rentré en prison. Voilà, c'est son travail et tout, pour être sûr de pouvoir venir me voir, pour être sûr d'être là. Voilà.
Et vos parents?
Ah, mes parents, c'est... Faut pas en parler. C'est pas super fort. Ma famille à moi, c'est ma femme, mes enfants. Hein. C'est ma vraie famille, c'est eux. C'est celle que j'ai construite. Voilà.
Je sais pas, tout à l'heure, vous parliez avec Denis, vous disiez... oui, il y a des choses qu'on ne va pas oublier et tout ça. Et...
Ah oui, par rapport à la mort de mon père.
Ah, vous avez perdu votre père?
Ouais, parce que je l'ai vu mourir. J'ai vu mourir, en fait, à La Roche-Chalon, c'était à La Roche-Chalon. Mais non, mais c'est énorme ce qu'il disait, en fait, qu'on peut psychologiquement, genre, limite, faudrait faire une thérapie pour pouvoir oublier ça. Et moi, j'ai expliqué, moi ma thérapie, c'est d'oublier. C'est de faire en sorte d'oublier. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, ben, j'essaie d'oublier. Mais ouais, avec mon père, ben, la vie était bizarre avec mon père.
C'est-à-dire ?
On n'avait pas une vie normale. On n'avait pas d'argent, mais on avait une grande maison, on avait des belles voitures, on avait plein de choses. Et puis, non, c'était les voyous à l'ancienne. On vendait pas de shit.
Vous faisiez quoi ?
Il faisait quoi? Plein de choses. Il faisait plein de choses. Ouais, je vais pas mentir. Oui, j'ai voulu avoir cette vie-là. Mon père, il avait plusieurs femmes. Moi, j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu faire plein de trucs, mais c'est... Mais peut-être qu'avant, c'était possible et normal. Maintenant, s'il n'y est plus. Voilà.
Vous êtes venu dans l'atelier?
Ben, pour me changer les idées. Comme beaucoup de gens, il y a des choses en fait, quand t'es dehors, c'est pas pareil. Quand t'es dehors, t'as une vie, et puis quand t'es à l'intérieur, ben t'es enfermé, mais tu t'ouvres à plus de choses. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression d'être enfermé, mais de m'ouvrir à plus de choses, quoi.
Vous lisez d'habitude?
Vous?
Lisez.
Lisez? Pas du tout. Pas du tout. J'ai lu un livre dans ma vie, ça s'appelle Rififi au collège. Alors, c'est un... Vous connaissez?
C'est un livre jeunesse, hein, c'est un album, un livre jeunesse, un roman jeunesse qui s'étudie au collège, en sixième. Hein, ouais, voilà.
Les fifis au collège.
C'est dans la collection Série Noire, je crois, ou un truc comme ça. C'est une couverture noire. Hein.
Oui, c'est ouais, ça.
Ouais. C'est le conseil de Jean, le professeur.
Parce que vous avez progressé. Entre le début, vous êtes arrivé là. Ça fait combien de temps? 4 mois? 3?
2 mois et demi là.
2 mois et demi, 3 mois. Les premières fois où vous avez écrit, puisque le texte que vous produisez aujourd'hui, pour moi, il y a un monde quand même.
Avant d'arriver en prison, j'ai jamais écrit une lettre de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vrai, hein. J'ai jamais écrit à personne. C'est depuis que j'ai écrit à ma femme la première fois, qu'après je écris tous les jours. Tous les jours que je écris, donc elle m'écrit tous les jours, je écris tous les jours. Donc à force, je travaille les choses, quoi. C'est comme je vous disais, moi j'arrive pas à faire un truc de journaliste, quoi. Ça, je peux pas. Truc rédigé, ben un texte super rédigé, machin, tout pour que... Un truc de magazine, quoi. Ça, je peux pas. Moi, ça vient avec le cœur, quoi. J'écris avec le cœur, ça défile.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, ici. Les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle merde à Vauban.
La belle par les mots, on continue demain l'écho yo-yo, ce journal des détenus et donc de ce surveillant Denis de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Donc deuxième partie demain, merci à Denis, à Jean, à Loïc, Xavier, à tous les détenus de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et écrire les commentaires que vous souhaitez. À la technique aujourd'hui, Ludivine Caron et Patrick Henry, Bertrand Chometon et Franck Adéraire ont réalisé cette émission, assisté de Marina Touillez, et c'est Grégory Salomonovitch qui tient le répondeur fermement, et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 114 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Radio France Politique.
Le nouveau rendez-vous politique de Radio France en direct sur France Inter, France Culture et Le Mauve.
Le dimanche à 18h10.
Premier invité, Jean-Pierre Raffarin, le 4 septembre.
Radio France entre dans le match de l'élection présidentielle avec une nouvelle émission présentée par Jean-François Aquili, France Inter.
Marie-Ève Malouin, France Info.
Hubert Huertas, France Culture.
Benoît Bouscarel, Le Mauve.
Et les journalistes de France Bleu.
Retrouvez aussi la vidéo en direct sur radiofrance.fr.
Vous écoutez Radio France.
Voilà, 16h et une poignée de secondes. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Le Conseil national de transition prolonge d'une semaine l'ultimatum adressé aux partisans de Mouammar Kadhafi à Sirte. C'est la preuve que les négociations progressent, explique le porte-parole du CNT. Les combats, on le voit là-bas, ne sont pas terminés, mais on pense déjà à la reconstruction. Dans moins d'une heure maintenant, s'ouvrira à Paris la conférence sur l'avenir de la Libye. Une soixantaine de nations seront représentées dans la Russie, qui a reconnu officiellement aujourd'hui le CNT. En France, Luc Chatel assume les 16 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Le ministre l'a dit aujourd'hui lors de sa conférence de presse de rentrée. Ceux qui disent qu'ils vont recréer des postes en 2012 vous mentent, dit-il. Luc Chatel plaide pour la qualité et non la quantité. Ça passe selon lui par la personnalisation des enseignants, c'est-à-dire la pédagogie individualisée, la différenciation des parcours et l'autonomie de recrutement des acteurs locaux. Pour Martine Aubry, cette rentrée scolaire, au contraire, s'annonce épouvantable. La candidate aux primaires socialistes l'a dit aujourd'hui lors d'une visite d'une école primaire à Amiens. Les moyens ne sont pas élastiques, dit-elle, mais il faudra remettre les enseignants là où on en a le plus besoin. Plusieurs dizaines de familles sans logis occupent depuis le début de l'après-midi l'hôtel Lutetia à Paris. Ils sont encadrés par l'association Droit au Logement. Nous avons demandé à ce que l'hôtel les loge gratuitement, a déclaré Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du DAL. Mais l'établissement, dit-il, a refusé. Le parquet de Bordeaux a confirmé aujourd'hui la mise en examen de Jean-Michel Baylet. Le candidat PRG à la primaire socialiste est soupçonné d'infraction au code des marchés publics dans le cadre de son mandat à la présidence du Conseil général du Tarn et Garonne. En revanche, dans un autre dossier concernant cette fois l'utilisation d'une voiture avec chauffeur, Jean-Michel Baylet bénéficie d'un non-lieu. Un journaliste de Mediapart porte plainte pour menace de mort. Fabrice Sarfi dit les avoir reçus au moment où il a signé des articles cet été sur l'homme d'affaires Taqiyedine et sur sa proximité supposée avec l'Élysée ainsi que son rôle supposé d'intermédiaire avec le régime Kadhafi avant la guerre en Libye. L'AFSAPS met en garde contre un médicament utilisé dans le traitement contre le cancer des enfants. Il s'agit du cardioxane, fabriqué par les laboratoires Novartis. Ce médicament est désormais contre-indiqué car il présenterait des risques accrus de cancer secondaire. Un mot d'athlétisme, c'est la deuxième médaille française au championnat du monde. Et comme pour la Villénie à la perche, eh bien c'est du bronze que Mayedine Mekissi a décroché cet après-midi en Corée du Sud sur le 3000 mètres steeple, derrière Kemboi et Kipruto, les deux Kenyans. Mekissi, heureux, on l'écoute au micro de Thierry Ruffa.
Je suis content, peu importe la couleur, une médaille ça me suffit amplement. Je suis fier d'apporter cette médaille pour l'équipe de France. Ça fait la deuxième médaille. J'aurais bien voulu offrir le titre à l'équipe de France, mais bon, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je suis content de ma course, tactiquement, techniquement. Je cours bien, je gère bien ma course. J'ai toujours mes adversaires en ligne de mire. Je réalise juste une erreur, c'est sur le dernier 400. Quand Kemboi commence à accélérer, je suis pas au contact. Et c'est ce qui fait la différence. Il y a juste un petit... peut-être pas un regret, mais la deuxième place, ça se joue à rien parce que... Kipruto, il se déporte au couloir 3 et je commençais à le doubler et à l'arrivée je lui ai juste dit que c'était pas fair play de sa part. Je lui ai dit que c'est pas bien, mais quand même j'ai félicité Kemboi. Vous savez, les Kenyans, je les respecte. Ils me respectent. Tout joue à rien entre nous et ça se joue sur un mouchoir de poche. Aujourd'hui ça s'est joué à quelques petits détails.
Et justement, pour Kipruto, le podium reste pour l'instant provisoire car la France a décidé de porter réclamation contre le Kenyan Kipruto, deuxième donc de ce 3000 mètres steeple qui a gêné donc l'arrivée de Mekissi. 15h04 sur Inter.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public. Aujourd'hui à Bourbonne-les-Bains, en Haute-Marne, à 20h30. Et demain dans la Meuse, à Bar-le-Duc, à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Non, attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre. Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous ce soir, dès 19h, dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
Et tout de suite avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Vous avez rendez-vous, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de Lodéon. Et bonjour à tous. Allez, en avant-première encore une fois. C'est jeudi prochain seulement qu'on pourra goûter ce beau disque. C'est livré par les siècles avec François-Xavier Roth, chef très occupé, décidément très talentueux aussi. Il y aura l'oiseau de feu sur ce disque, c'est déjà. Mais enfin, on peut pas le trouver avant le 8. Et d'autre part, les orientales, c'est-à-dire un assemblage de pièces d'Edvard Grieg, de Glazounov, de Sinding, d'Arensky. Oui, des personnes du nord et de l'est par rapport à nous, bien sûr. Et voici tout de suite, tiré des saisons du bon gros Glazounov, j'aime bien dire ça comme ça, mais qui est quelquefois aussi plein de fulgurance, aussi un pas de deux et bacchanal.